Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être de nouveau de fidèles auditeurs et auditrices de l'émission du département d'histoire et d'archéologie de l'université de Tours, Un tour d'histoire. Cette émission de ce soir sera consacrée aux usages idéologiques de l'Antiquité, un petit changement de programme par rapport à ce qui avait été annoncé le mois précédent. En raison, disons, d'une actualité un petit peu plus brûlante, nous avons choisi avec mon collègue et ami Pierre-Olivier Auchard, que je remercie d'être de nouveau présent dans le studio, nous avons choisi donc de nous pencher sur un débat récent qui est parti des États-Unis, qui est parti de Stanford et des études classiques outre-Atlantique et qui, bon, dans le courant des mois de février et de mars de l'année en cours, a aussi atteint les rivages de la France et qui porte sur, au fond, l'utilité des classiques et sur la possibilité que les classiques, comme les Américains les appellent, les classiques puissent finalement avoir contribué à la formation du pire de ce que nous connaissons dans la société contemporaine, c'est-à-dire les inégalités de genre, les inégalités de classe, les inégalités aussi ethniques. Alors, donc ce soir, je suis donc très heureux, je vous l'ai dit, de retrouver mon ami Pierre-Olivier Auchard qui va discuter avec moi de ces questions. Et nous allons d'abord, dans un premier temps, essayer de expliquer un peu aux auditeurs et aux auditrices le fond du débat. Hein, poser les différents protagonistes de ce débat outre-Atlantique et en France. Et puis nous allons essayer de remettre ce débat aussi dans son contexte, un contexte un peu plus récent, c'est-à-dire celui de la place des études classiques dans les cursus universitaires et dans la recherche de part et d'autre de l'Atlantique, et dans un contexte un petit peu plus large, celui au fond des usages de l'Antiquité depuis, allez, on va dire qu'on va remonter au XVIIIe siècle, au moment où l'héritage grec et romain est repris à la fois dans les cercles intellectuels, mais aussi dans les cercles de pouvoir, afin de constituer lentement les nations modernes et aussi le legs de cette période, c'est-à-dire une partie de la culture européenne moderne. Pour enregistrer cette émission, j'ai une nouvelle fois le plaisir d'accueillir Sébastien Dubois, étudiant donc de Master 2 de notre département d'histoire et d'archéologie. Et je le remercie une nouvelle fois d'assurer la technique de cette émission. Alors le point de départ donc de la controverse qui va lancer cette émission, c'est le travail d'un de nos collègues qui est professeur associé d'histoire et de littérature et de langue classique à l'université de Stanford et qui s'appelle Daniel Padilla Peralta. Daniela Peralta, c'est un spécialiste de l'Empire romain, plutôt des périodes de la fin de la République romaine, du début de l'Empire, et il a consacré tout son travail depuis sa thèse à réfléchir à la question finalement de la place de ce qu'on appellerait les subalternes dans l'histoire romaine. Il s'est beaucoup intéressé aux esclaves, il s'est beaucoup intéressé aux questions des migrations et des migrants. Il a récemment publié un ouvrage intitulé donc Divine Institutions sur la question des pèlerinages et dans le monde antique et leur importance pour finalement les mobilités à l'échelle de la Méditerranée. Quelques années auparavant, il avait aussi coordonné un ouvrage très intéressant intitulé L'Empire du pillage, un Empire of Plunder, sur lequel je pense nous allons revenir. Et depuis quelques années, notre éminent collègue Padilla Peralta, qui est perçu comme quelqu'un véritablement en pointe dans les études romaines outre-Atlantique, a commencé à se poser, à s'interroger sur finalement l'héritage de ces études classiques, c'est-à-dire à la fois l'étude, bon, bien sûr, de l'histoire grecque, romaine, mais aussi l'apprentissage du latin, du grec et une formation à l'archéologie, donc ce qu'on appelle les classiques dans les universités anglo-saxonnes, aussi bien britanniques que états-unienne, il a commencé à s'interroger sur l'impact que l'étude des classiques pouvait avoir sur les sociétés contemporaines. Alors, c'est une interrogation évidemment qui lui est venue assez tard, parce qu'en réalité, c'est un débat très ancien, hein, la place des classiques dans la formation de la culture et de l'histoire européenne, mais il s'est senti en quelque sorte gêné, hein, un peu désarçonné, un peu en désarroi devant ce qu'il concevait être un peu la responsabilité des études classiques dans la formation d'une société contemporaine qui, ma foi, ne semble pas complètement lui correspondre. Pour rapidement, je dirais, poser les termes du débat, deux reproches sont faits à l'étude des mondes anciens. Le premier reproche, ce serait qu'en quelque sorte, ces mondes anciens présentaient toute une série de traits que nous trouverions à l'heure actuelle parfaitement dommageables et détestables. Ce sont des sociétés qui sont dominées évidemment par les figures masculines, ce sont des sociétés patriarcales quand elles ne virent pas complètement à la misogynie, ce sont des sociétés évidemment qui connaissent l'esclavage, et ce n'est pas la moindre des inégalités sociales. Ce sont des sociétés aussi qui, comme dans un très bel ouvrage Benjamin Isaac l'avait assez bien montré, sont pleines de préjugés ethniques et sont en quelque sorte en mesure finalement de produire à l'appel des clichés sur tous ceux qui sont un peu à l'extérieur du monde méditerranéen. Le deuxième reproche que Padilla fait à l'étude des classiques en quelque sorte, c'est que le milieu auquel il appartient est relativement fermé à la diversité, en particulier à la diversité de genre, mais aussi surtout à la diversité de provenance ethnique ou géographique. Et Padilla est d'autant plus sensible à cela qu'il est lui-même en fait émigré de Saint-Domingue et qu'il rapporte plusieurs fois dans des articles, dans même un ouvrage qu'il a consacré à son parcours personnel au début des années 2010, il rappelle plusieurs fois qu'au fond, dans les classes de latin et de grec, il était l'un des rares à ne pas être de blanc de peau. Et à l'occasion d'une conférence qu'il a tenue en 2019, au début de l'année 2019, à la Société des études classiques, une société assez puissante aux États-Unis, eh bien, il a eu un accrochage assez vif avec l'une des participantes. Et dans ce contexte de tension, un petit peu, il a, au fond, appelé à la disparition des départements d'études classiques aux États-Unis si ces départements ne se réformaient pas. Alors ça a donné lieu à un débat assez vif, d'abord aux États-Unis, sur l'impact du programme destructeur, en quelque sorte, que traçait Padilla. Il a tout de suite été soutenu par toute une partie d'abord de ses collègues de Stanford, notamment les très grands professeurs d'histoire romaine et d'histoire grecque que sont Walter Scheidel et Ian Morris, mais il a aussi reçu un soutien assez large dans le monde anglo-saxon, en particulier aux États-Unis, car cela faisait quand même plusieurs années, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, que ce débat couvait sur, au fond, à la fois l'utilité de l'enseignement des langues anciennes et de l'histoire ancienne, mais aussi l'utilité de le faire dans la forme qui est celle adoptée par les universités états-uniennes, et sur, d'une certaine façon, un enfermement de ces études classiques dans des schémas relativement convenus d'histoire institutionnelle, d'histoire politique, qui faisaient finalement assez peu cas des diversités des sociétés anciennes elles-mêmes. Mais sur un autre plan, évidemment, beaucoup d'autres collègues, à la fois britanniques, je pense par exemple à la grande professeure de Cambridge, Mary Bird, ou aux États-Unis elle-même, bien entendu, beaucoup se sont élevés contre la violence des attaques de Padilla, en particulier à un moment où les études classiques, les départements d'études classiques dans les universités, aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis, sont menacés pour des questions de restrictions budgétaires. En général, quand il s'agit de fermer en premier un département, eh bien, on se tourne plutôt vers les départements supposés moins en phase avec la société moderne. Et les coûts budgétaires donc, font que finalement ces départements sont souvent menacés. Donc un grand nombre de détracteurs de Padilla lui ont reproché finalement de scier un peu la branche sur laquelle il était assis et surtout de menacer en quelque sorte le maintien d'un enseignement universitaire de haut niveau dans les disciplines qui sont celles qu'il enseigne lui-même et dans laquelle il poursuit ses recherches. Le débat a aussi évidemment a porté sur des questions de fond qu'on abordera avec Pierre-Olivier Auchard. Alors en France, Pierre-Olivier, les réactions aussi n'ont pas tardé, hein, puisque cette violence, hein, de cet appel à la destruction des départements d'études classiques, ou du moins leur éclatement, il a été en fait prononcé pour la première fois par Padilla en 2019, mais il a été en quelque sorte remis au goût du jour par un long portrait que le New York Times lui consacre au début de l'année 2021. Et à peine un mois plus tard, la réponse ne se fait pas tarder du point de vue français, puisque de multiples tribunes sont alors paraissent dans le Figaro pour défendre une vision des classiques un peu différente.
Oui, tout à fait, puisque il est vrai que ce débat, qui également en France n'est pas en Europe d'une manière générale, hein, comme Sylvain Janière l'a rappelé, les universités britanniques, hein, sont des universités européennes au sens continental du terme. Donc ce n'est pas un débat nouveau, enfin continental par opposition à l'Amérique du Nord, hein, on est bien d'accord. Mais effectivement, là il y a eu un retour assez rapide et assez assez visible médiatiquement, donc par des tribunes, entre autres dans le Figaro, donc quotidien de presse nationale, avec une diffusion et en tout cas une visibilité assez forte, et ça a fait écho, ces critiques qui pouvaient être faites par Padilla, mais également les contre-critiques de ses collègues anglo-saxons pouvaient trouver un écho effectivement en France, puisque donc les questions autour du gender, de la colonisation, ces questions des rapports hommes-femmes, des inégalités sociales, voire des inégalités de classe, sont des thèmes et des thématiques qui sont assez récurrentes également dans la recherche historique en France. Et elle entrait aussi dans une espèce de microcosme franco-français, un petit peu en collision avec l'état de, les questionnements qu'il pouvait y avoir sur la place des études de l'Antiquité. Alors je n'emploie pas le terme classics volontairement, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure, mais des études de l'Antiquité, la place de l'enseignement des langues anciennes, voire parfois qualifiées de langues mortes, le latin et le grec, dans les enseignements secondaires, avec les réformes du collège et les réformes du lycée qui ont été mises en place ou qui sont mises en place, la place des dans les programmes scolaires de la partie de la période Antiquité dans les programmes d'histoire, que ce soit les programmes d'histoire du primaire, du collège ou du lycée, la place des questions aussi dans les concours de recrutement des enseignants de l'éducation nationale, la place pas que de l'histoire ancienne, mais en partie de l'histoire ancienne dans la rotation et la présence récurrente ou pas de l'Antiquité dans les concours de recrutement. Donc, on avait en France aussi tout ce questionnement qui se faisait autour de ces questions de la place de l'Antiquité. Mais peut-être qu'en France, les tribunes qui ont été faites n'étaient pas tout à fait sur le même angle, sur le même angle d'attaque que ce qui a pu être fait suite aux propos de Padilla sur les crimes supposés de l'Antiquité, sur lequel on reviendra. Parce que si jusqu'à présent j'ai parlé de l'enseignement de la période antique, de l'Antiquité, et que j'ai essayé de ne pas utiliser le terme de classics, c'est pas uniquement parce que c'est un anglicisme, mais c'est parce que la structure peut-être de l'enseignement de cette période dans le système universitaire et dans le système de recherche en France n'est pas tout à fait semblable à ce qu'on peut trouver dans le monde anglo-saxon. C'est-à-dire que quand Padilla dit il faut faire disparaître les classics, c'est faire disparaître les classics en tant que département cohérent qui serait sur les langues, l'histoire, l'archéologie, donc un département qui serait des antiquités, de ce qu'on pourrait appeler de l'antiquité. Alors que finalement, si on prend le cas des universités françaises, le cas de l'université de Tours, mais c'est loin d'être le seul, ça n'existe pas un département de classiques au sens anglo-saxon, c'est-à-dire qu'il y a des départements de lettres classiques, enfin de lettres dans lesquelles il y a des lettres classiques, il y a des départements d'histoire dans lesquels il y a la période antique, il y a des départements d'archéologie, qui peuvent parfois être, voilà, avec de l'histoire de l'art ou de l'histoire ou être des départements autonomes. Il y a des départements d'histoire de l'art dans lesquels on fait de l'histoire de l'art antique, mais il y a déjà, on va dire, cet émiettement disciplinaire de la période dans plusieurs champs. Alors, bien sûr qu'on travaille ensemble, évidemment. Les historiens de l'Antiquité sont amenés à travailler, peuvent être amenés à travailler avec des spécialistes de littérature et de civilisation classique, peuvent être amenés à travailler avec des archéologues, mais on n'a pas une logique de département d'un point de vue institutionnel comme on peut en avoir dans le monde anglo-saxon. Et donc finalement, les tribunes, ça se voit relativement bien dans les tribunes qui ont été publiées. Donc les deux plus récentes qui datent du mois de mars, donc dans le Figaro entre autres, on le voit bien puisqu'il y en a une qui était à l'initiative de Bertrand Lançon, qui est donc à l'université de Besançon, à l'université de Limoges, toutes mes excuses, à l'université de Limoges, donc qui est historien, qui est un historien de l'Antiquité à l'université de Limoges, une tribune qui a été à son initiative signée par 41 autres universitaires, dont une grande partie d'historiens, et qui revenait justement sur la place de l'Antiquité, mais comme science historique, comme intérêt historique, comme contextualisation de la période, et qui revenait justement sur l'une des grosses critiques qu'il faisait au propos de Padilla, c'était justement de dire l'Antiquité, on en est héritier dans le sens où c'est notre passé, mais que c'est un passé déjà qu'on prend un peu comme une altérité, qu'on ne prend pas nécessairement comme un modèle, mais je pense qu'on sera amené à y revenir sur les questions de fond. Et puis, l'autre argument était celui de dire pourquoi focaliser sur l'Antiquité en mettant le doigt sur des mots qui ne sont pas spécifiques à l'Antiquité. Il n'y a pas que les sociétés antiques qui ont été esclavagistes, même s'il faut condamner les sociétés esclavagistes, c'est pas une spécificité de l'Antiquité. Le patriarcat et la misogynie n'est pas une spécificité de l'Antiquité. C'est pas intrinsèquement lié à l'Antiquité. Donc, à partir de là, se pose la question du rapport aux différentes périodes, avec une contextualisation et une mise en perspective sur un temps long, et donc est une approche des historiens. À côté de ça, on a eu d'autres critiques tout aussi virulentes contre les propos et le positionnement de Padilla, comme par exemple la tribune de Raphaël Dohan, qui est parue à peu près à la même période, mais qui là était, qui est agrégé de lettres classiques et qui donc se place sur l'étude de l'Antiquité, mais d'un point de vue beaucoup plus littéraire, non pas par rapport à l'héritage, ou en tout cas à un passé historique, mais par rapport à un patrimoine, ou en tout cas par rapport à un corpus de textes arguant du fait que il est vrai que l'étude du latin, du grec permet l'accès à une quantité de textes qui sont bien plus importantes que d'autres éventuellement civilisations antiques, hein, puisque Padilla reprochait de faire un focus sur les gréco-romains au détriment d'autres civilisations antiques qui seraient plus délaissées, hein. Il prenait l'exemple des Hittites, des Assyriens, qui ont laissé des textes, hein, qui ont laissé des sources, qui ont laissé des écrits dans des langues que l'on comprend aujourd'hui, que l'on sait lire, que l'on sait traduire, mais que le corpus de textes à notre disposition est plus important, pour des raisons facilement compréhensibles de langues qui n'étaient plus parlées mais qui n'a pas disparu, de textes qui ont continué à être copiés, recopiés, re-recopiés au fil des siècles, on a un corpus de textes qui est plus important, et donc la critique était plus sur l'accent littéraire, l'accent texte en tant que corpus patrimonial à étudier, pas forcément pour les accepter, pas forcément pour les copier, mais en tout cas pour les connaître et pour les discuter, un rapport au texte, un rapport à la littérature, un rapport à tout l'apport qu'il y a pu avoir sur justement ces aspects littéraires. Donc finalement, les réponses apportées en France, rien que d'un point de vue méthodologique ou d'un point de vue positionnement, les réponses apportées en France aux propos de ces historiens de l'université de Stanford n'ont pas tout à fait la même position que dans le monde anglo-saxon, puisqu'on a, on a déjà en France une approche qui est à cheval entre deux disciplines, si je puis m'exprimer ainsi, l'histoire et les lettres, qui ont des passerelles entre elles, bien entendu, mais qui ont aussi des angles d'approche différents, ne serait-ce que par la structure du monde universitaire et du monde de la recherche en France, qui, de ce point de vue-là, est assez différent de ce que l'on peut avoir dans le monde anglo-saxon. Mais, alors, après, il est clair, mais là, je pense que on va être amené à pouvoir en discuter avec Sylvain Jagnard. Il est clair qu'au-delà de, on va dire, ses positions épistémologiques et ses positions, on va dire, d'école, en quelque sorte, sur les propos de Padilla, c'est vrai que ça interroge aussi sur la place de l'Antiquité, l'usage de l'Antiquité qui peut être fait, et aussi de la conception éventuellement que ces auteurs, que ces chercheurs brillants par ailleurs, hein, les travaux de Scheidel et Maurice par exemple sur les empires antiques ont fait largement date, hein, donc il faut savoir que ce sont des sommités, hein, ces chercheurs de Stanford qui ont pris position, ce qui explique le poids aussi de leur prise de position. Mais il y a peut-être des éléments critiques à prendre en compte sur lesquels on peut discuter. Si par exemple, alors moi, si je devais prendre position, hein, mais l'un des éléments qui ressort, me semble-t-il, de ce débat, c'est que la position de Padilla, comme l'a rappelé Monsieur Jagnard, elle est liée également, bien entendu, à son vécu, à son parcours personnel, à la vie qui a été la sienne. Hein. On ne peut pas en faire abstraction. Hein. Si je me replonge dans mes propres années d'études, j'ai eu un enseignant dont je tairai le nom. J'ai eu un enseignant dans des universités lorsque j'étais moi-même étudiant en licence qui disait : « Nous faisons des sciences, mais nous sommes des sciences humaines et les êtres humains ont un cœur. » Et donc à partir de là, on est forcément un petit peu le produit ou en tout cas, on est un petit peu le produit de l'éducation qu'on a eue, du milieu dans lequel on évolue et de certains prismes qu'on peut avoir. Mais un des éléments qui me semble à prendre en compte de manière importante, c'est que le positionnement face aux classiques des États-Unis et le positionnement face à l'étude de l'Antiquité, par exemple en Europe et en France en particulier, c'est que ce sont des régions, j'emploie volontairement pas le terme de pays, volontairement, ce sont des régions qui ont une histoire différente, un passé différent, et que, aux États-Unis, le patrimoine de l'Antiquité, on ne peut pas l'avoir sous les yeux, ça ne s'inscrit pas nécessairement dans le paysage quotidien, alors que ça peut être le cas dans certaines régions méditerranéennes, ça peut, si on va à Arles, si on va, on n'est pas obligé d'aller à Rome ou à Athènes, hein, si on va à Arles, si on va à Nîmes, si on va dans d'autres régions d'Italie ou dans d'autres régions de Dalmatie, on peut plus facilement se raccrocher physiquement à ce passé, c'est-à-dire pas forcément l'adopter comme un modèle, on y reviendra sans doute, mais en tout cas intégrer plus facilement qu'il fait partie d'une trame historique plus profonde parce qu'il s'inscrit dans le paysage, ce qu'il n'y a pas nécessairement ou pas aussi facilement dans les régions extra-européennes ou extra-méditerranéennes. Mais ça pose aussi la question, on en reviendra plus tard, je voudrais pas, mais de ce qu'est l'Antiquité et de comment définir l'Antiquité, parce que faudrait pas avoir une vision trop réductrice de ce qu'est l'Antiquité et la réduire effectivement à de l'Antiquité gréco-romaine. Mais là, je pense que Sylvain Jagnard en parlera mieux que moi. Même parler de la Grèce ou de Rome, ils avaient des voisins, ces peuples antiques. Et donc, étudier les Grecs et les Romains n'interdit pas, au contraire, de regarder dans quel monde ils interagissaient et n'amène pas nécessairement à s'auto-centrer sur ces deux-là.
Merci Pierre-Olivier pour ce riche rappel et évidemment quelques points très importants que tu as soulevés, en particulier donc les différences de nature institutionnelle hein, de part et d'autre de l'Atlantique. Et de fait, je serais amené du coup à préciser un petit peu pour que les auditeurs et les auditrices ne soient pas embarqués peut-être dans une vision trop simpliste du débat, amené donc à préciser. En fait, si le débat a beaucoup pris en importance, c'est comme souvent par l'intermédiaire d'articles ou de réseaux sociaux, il y a une sorte de crispation des positions des uns et des autres vers les versants les plus extrêmes, les plus tendus. Mais en réalité, Padilla, lorsqu'il demande la disparition des classiques, comme Pierre-Olivier l'a très bien rappelé, il ne demande pas la fin de l'étude des lettres anciennes ou de l'histoire ancienne, mais des départements qui en font une sorte d'étude organique, mais il proposerait en quelque sorte que, comme sur le modèle occidental, les historiens de l'Antiquité aillent rejoindre les départements d'histoire, que les spécialistes des philosophies antiques aillent rejoindre les départements de philosophie, et ainsi de suite. Donc lorsqu'il parle finalement de la destruction de ces classiques, c'est que lui et Scheidel et Maurice vont dans ce sens, c'est plutôt une répartition différente hein, de l'enseignement. Et d'autre part, le débat s'est crispé, mais en réalité, dans un premier temps, Padilla appelait plutôt à une réforme, hein, une réorganisation de l'enseignement des classiques. Et Pierre-Olivier a insisté sur un certain nombre de points qui sont centraux pour Padilla. Les premiers de ces points, c'est que je crois, et là-dessus tout le monde peut être d'accord avec lui, qu'il est nécessaire d'avoir un regard critique sur ce qu'est l'Antiquité et sa réception. Et en effet, comme beaucoup de thuriféraires de Padilla ont pu le dire, la référence au monde grec ou au monde romain a pu servir dans la construction nationale un peu fermée, un peu exclusive en Europe occidentale. Oui, la référence à l'Antiquité grecque ou romaine a pu servir les régimes fascistes ou nazis. Oui, la référence à l'Antique est constante dans le phénomène de justification, de légitimation et de conduite de la colonisation des grands États européens au XIXe et dans la première moitié du XXe siècle. Là-dessus, c'est indéniable. Ce que Padilla et au fond Scheidel, Maurice et d'autres qui le suivent appellent de leur vœu, c'est qu'il y ait une prise de conscience dans les départements de classiques de cette histoire de la réception de l'Antiquité et qu'elle soit finalement enseignée. Hein, au même titre qu'on enseigne l'histoire de Rome, il faudrait aussi enseigner la réception et dans une perspective critique de cette histoire romaine. Et ce qu'il appelé aussi de leur vœu, Padilla et ses soutiens en quelque sorte, c'est une attention à une autre antiquité. Alors, bien entendu, Pierre-Olivier Auchard en a déjà parlé, une autre antiquité géographique. Hein. Comment se fait-il qu'il y ait si peu de spécialistes des mondes iraniens, globalement, on peut dire, des mondes mésopotamiens, de l'extrême-orient antique? C'est un souci, mais aussi comment se fait-il que d'après eux, hein, les classiques sont surtout tournés vers l'étude des élites de l'Antiquité, des traces qu'elles ont laissées, d'une histoire un peu classique au sens régulière, traditionnelle, politique, militaire, institutionnelle, économique, mais qui ne prennent pas en compte les développements les plus récents dans le domaine de l'histoire, que sont l'histoire du genre, l'histoire des ce qu'on appelle les Subaltern Studies, l'histoire aussi globale ou connectée. Donc de fait, ils appellent plutôt à une profonde remise en cause, méthodologique, heuristique, de leur propre département, plus qu'à évidemment l'éradication de l'étude des mondes grecs et des mondes romains. Donc il ne faudrait pas non plus caricaturer en quelque sorte le débat, même si Padilla lui-même a avoué que si finalement les classiques, en tout cas aux États-Unis, n'étaient pas réformés, peut-être qu'il n'aurait plus envie d'enseigner à Stanford et qu'il irait mener une carrière en particulier politique, Padilla étant un intellectuel qu'on pourrait appeler public ou organique, hein, quelqu'un qui n'hésite jamais à intervenir dans le débat public. On l'a vu, j'en ai déjà parlé, il a publié une autobiographie de son parcours, mais il est aussi intervenu plusieurs fois dans des journaux comme par exemple The Guardian ou d'autres titres outre-Atlantique, dans des prises de position contre par exemple la politique de Trump, contre les migrants mexicains ou de façon générale les migrations jugées comme illégales. Avant finalement de poursuivre l'émission, j'aimerais bon, d'abord faire une sorte de petit point d'étape. Hein. Voilà, ce conflit, en quelque sorte, ce conflit d'idées, ce débat d'idées, il nous a donné le prétexte à Pierre-Olivier Hochard et à moi-même pour organiser cette émission, au fond, à la fois pour, dans une perspective d'information, hein, pour tenir au jour les amateurs d'histoire, des débats qui traversent nos disciplines, qui sont d'ailleurs des débats tout à fait sains et tout à fait... raisonnables, logiques et qui doivent être menées, mais aussi pour ces débats, les remettre un petit peu en perspective, des perspectives à moyen terme et des perspectives à plus long terme. Mais avant cela, avant de passer donc à cette remise en contexte qui fait véritablement de nous des historiens avec nos déformations professionnelles, ce contexte immédiat et ce contexte plus long, j'aimerais peut-être que, aussi bien Pierre-Olivier que moi-même, eh bien nous donnions un peu nos positions en fait, personnelles sur ce débat. Alors, je pense que la critique de Padilla est tout à fait justifiée et je crois que dans le reste de l'émission, nous allons montrer qu'en effet, oui, l'Antiquité a fait l'objet de mésusages au cours des siècles, dont la malheureuse n'est évidemment pas du tout responsable, et c'est même pas besoin de le dire. Mais que, d'autre part, je trouve néanmoins que il y a un problème de positionnement de Padilla, car il faut avouer qu'il parle d'un lieu, Stanford, et d'un moment, hein, l'étude des classiques aux États-Unis au début du XXIe siècle, qui n'a jamais été aussi ouvert, justement, à la diversité, c'est-à-dire à la fois à l'étude des genders, l'étude des femmes dans le monde grec ou le monde romain, bon, même si on reste dans l'Antiquité dite classique, c'est un véritable secteur de recherche dont la fécondité, la qualité n'est absolument pas à remettre en cause. Que l'on cite notamment les travaux de Mary Bird, mais aussi de Sarah Pomeroy, de plusieurs de nos collègues, ou en France, des groupes qui travaillent autour d'Anima, autour de Violaine Sébillotte-Cuchet, Florence Gershanock ou d'autres. Donc on ne peut pas dire que l'Antiquité est restée, enfin l'étude de l'Antiquité dans les universités de part et d'autre de l'Atlantique est restée centrée sur l'étude, au fond, de César, Pompée, Alexandre, des grands hommes de l'Antiquité. D'autre part, même chose, le monde anglo-saxon regorge d'études consacrées aux groupes dominés, hein, et ça ne date pas d'hier. Dès la fin des années 70, quelqu'un comme Keith Hopkins consacrait des monographies entières à l'étude de l'esclavage. Plus près de nous, nous avons Noël Lenski aussi, qui a consacré énormément de travaux à ce sujet. Donc, je trouve que la critique de Padilla, c'est au fond la critique d'un savant qui, bien entendu, constate les défauts, hein, du milieu auquel il appartient, mais n'a peut-être pas vu tout le progrès qui a été réalisé depuis la dernière génération. D'autre part, il est évident... Et c'est pas du tout ce que Padilla d'ailleurs dit, mais il est évident que on ne peut, sur le plan de la méthode, écarter tout un pan de la recherche historique ou tout un pan de l'histoire de façon générale sous prétexte que son usage en a été délicat ou a été source finalement de construction soit politique soit économique productrice d'inégalités, productrice de violence. C'est évidemment, toujours garder la distance critique par rapport à son objet. Évidemment, Padilla lui-même ne considère absolument pas que les sociétés antiques sont de prime abord responsables de l'ensemble des inégalités qui frappent nos sociétés actuelles, mais il appelle plutôt de ses voeux le fait qu'on puisse en être un peu plus conscient. Mon autre position que je crois je partage avec Pierre-Olivier, c'est au fond de quelle antiquité parle-t-on ? C'est-à-dire qu'il y a une grande plasticité en fait des références à l'antiquité, et plusieurs détracteurs de Padilla n'ont pas manqué de rappeler que dans l'antiquité, on a aussi référence, enfin le remploi de l'antiquité a été aussi effectué dans un sens de libération, de libération nationale, de libération aussi de classe. Il ne sert que finalement à rappeler la figure de Spartacus, hein, qui bien entendu est un personnage qui à la fois joue un rôle central dans les sources antiques romaines, D'ailleurs, pas forcément des sources qui sont toujours négatives à son égard. Et d'autre part, c'est une figure qui, dans les mouvements de libération nationaux, dans les mouvements aussi de combat, en particulier donc des mouvements politiques d'amélioration des conditions de la classe ouvrière dans l'Europe du 19e et du 20e siècle, a été un personnage qui a été pris comme un modèle. Hein. Je n'ai pas besoin de rappeler à quel point en Allemagne, au début du XXe siècle, des groupes entiers communistes se sont reconnus dans la figure de Spartacus. Un personnage comme Massinissa, ou aussi comme Jugurtha, grand roi numide opposé à l'extension de Rome en Afrique, ont fait l'objet de remplois et d'utilisation dans les mouvements de libération nationaux du Maghreb entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Bourguiba lui-même disait qu'il... c'était un homme d'une extraordinaire culture et d'une culture aussi classique tout à fait impeccable, et il aimait à dire qu'au fond il reprenait l'œuvre que Jugurtha avait commencé quelques siècles avant lui. Donc là, on pourrait multiplier les exemples de cette nature. Je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler dans le reste de l'émission. Ça me semble assez important, mais avant de poursuivre sur justement les mésusages de l'Antiquité depuis le XVIIIe ou le XIXe siècle, je voudrais peut-être écouter Pierre-Olivier sur ça. Voilà, ses propres critiques ou acceptations des remarques négatives de Padilla à l'égard d'une certaine façon d'enseigner nos disciplines.
Oui, merci beaucoup. En effet, je rejoins une grande partie, si ce n'est la totalité des propos tenus par Sylvain Janiard sur cette question. Je comprends tout à fait le positionnement de Padilla et les questions qu'il se pose, effectivement, l'idée étant de renvoyer à l'Antiquité, une période antique, ancienne, un petit peu engoncée, un petit peu archaïque, et du coup... qu'on aurait du mal à dépoussiérer. Et il me semble que Sylvain Janiard a bien rappelé à quel point les études, y compris des classiques de l'Antiquité, que ce soit en histoire ou dans d'autres domaines, sont perméables et prennent à bras-le-corps les grands questionnements historiographiques qui traversent la discipline, toute période confondue. Il me semble aussi que l'un des reproches que je ferais dans le message passé par ces historiens de Stanford, c'est peut-être justement une vision un petit peu monolithique de l'histoire antique, c'est-à-dire que c'est un peu un défaut que l'on peut avoir et qu'on le retrouve. Enfin, moi, je sais que ça m'arrive de le retrouver aussi avec les étudiants lorsqu'on aborde cette période-là. C'est que on peut en avoir une vision où on peut donner parfois, je pense, le sentiment que c'est une période immuable. Même si on prend l'Antiquité, restons sur la sacro-sainte Antiquité gréco-romaine, même restons sur l'Antiquité grecque, qui est plus ma spécialité. Si on reste sur les dates classiques de l'Antiquité grecque, qu'on pourrait discuter, elle couvre une période de 2000 ans. Elle va des palais crétois de Knossos jusqu'à l'Alexandrie de Cléopâtre. 2000 ans d'histoire. C'est dire que cette période a été immuable pendant 2000 ans revient à dire qu'on n'a pas évolué, nous, depuis Vercingétorix. Chronologiquement, ça revient à la même chose. Quand un Plutarque, au IIe siècle après Jésus-Christ, nous dresse une vie de Périclès, qui était donc stratège athénien au Ve siècle avant, il y a 700 ans qui séparent les deux hommes. Pourtant, ils sont tous les deux grecs, de culture grecque, ils parlent le grec, et c'est des antiques, c'est des anciens, mais il y a 700 ans. Et finalement, il me semble qu'un des défauts qu'il pourrait y avoir dans l'approche qui peut être faite de la dénonciation des mésusages de l'Antiquité, c'est d'avoir une vision de l'Antiquité qui est fantasmée, qui est même figée. Finalement, dire que dire que l'Antiquité, on y reviendra, mais voilà, l'idée qu'il y a l'Antiquité blanche, que c'était en fait l'homme blanc et qui a pu être récupéré, on en reparlera sans doute, mais Sylvain Janière en a déjà parlé par les régimes fascistes du XXe siècle. Enfin, quand Alexandre le Grand part à la conquête de l'Empire perse, on peut dénoncer le côté impérialiste de la manœuvre, on peut dénoncer le côté quelque part colonisateur de la manœuvre, puisqu'il y a des Grecs qui vont s'installer dans des régions où ils n'étaient pas. C'est un fait, c'est indiscutable. Mais du coup, ils rentrent en contact avec des non-Grecs. C'est pas nécessairement dans un but de rouleau compresseur et de faire disparaître. Ça s'est bien vu, d'ailleurs, dans les études d'histoire antique. On a parlé d'hellénisation au départ, et puis on a commencé à parler d'acculturation, et maintenant on parle de transfert culturel. Et les transferts, l'idée étant que ça doit se faire dans les deux sens. Ça relève peut-être un petit peu du cliché, mais l'épouse d'Alexandre, Roxane, était une Iranienne. Elle n'était pas grecque pour un centime. On peut discuter de la volonté qu'Alexandre avait dans son dessin. Je prends cet exemple-là parce que il est assez connu. Alors pourquoi il l'a fait ? L'émission n'y suffirait sans doute pas, mais il a intégré, par pragmatisme en partie, mais il a intégré des non-grecs dans ses nouvelles structures politiques, dans ses nouvelles structures économiques. Donc, voilà, il y avait cette dimension-là, et finalement, il me semble que c'est trop réducteur. Disons que la vision qui est donnée, ce serait effectivement pour caricaturer celle de la Grèce classique. Et on retrouve le mot classique, la Grèce classique, c'est-à-dire Athènes, Sparte, la guerre du Péloponnèse, le 5e siècle. Comme l'a dit Sylvain Janière, Padilla, il est spécialiste de la fin de la République et du début de l'Empire. Effectivement, une période auguste, l'Empire, mais on pourrait rétorquer que l'empereur Claude, il est né à Lyon, enfin que Septime Sévère était originaire d'Afrique du Nord, que même si on prend les débuts du christianisme, les premiers papes. Alors, les premiers papes ont été fournis en grande partie par les provinces orientales de l'Empire. C'était des Syriaques, c'était des Égyptiens. En tout cas, ils venaient de Méditerranée orientale. Donc, même sous l'Empire romain, il y avait une mosaïque, il y avait une multitude de religions, d'origines ethniques, d'origines sociales. Donc, je crois que ça c'est un des défauts, éventuellement un des problèmes, en tout cas de l'angle par lequel est pris la dénonciation. C'est une vision peut-être un mésusage là de l'Antiquité, en tout cas une mauvaise utilisation réductrice du terme. Et moi, ce qui me marque aussi, c'est que finalement, le Padilla et ses collègues de Stanford abordent l'Antiquité comme un moment chronologique, vraiment comme un temps sur la frise chronologique, un bornage chronologique pur. Et personnellement, je suis plus sensible à la définition que donne de l'Antiquité, par exemple, quelqu'un comme Christian Grataloup, qui est un géographe et qui n'est donc pas un historien, mais qui est un spécialiste de géohistoire. Et donc, qui définit l'Antiquité comme un moment, comme un espace temporel, c'est-à-dire un moment de la chronologie, mais un endroit particulier du globe. Et que finalement, l'Antiquité n'est pas... On peut pas dire que c'est l'Antiquité parce que c'est synchrone dans la chronologie. Et que l'Antiquité, au sens classique gréco-romain, en fait, c'est la Méditerranée. C'est les civilisations, les peuples, on prend le terme qu'on veut, les États, peu importe. Mais c'est la Méditerranée, quelque part, entre le 4e millénaire avant, si on veut être très très large, et, vaste débat aussi, quelque part un peu flou, entre le 5e et le 7e siècle après Jésus-Christ. Mais ça n'implique pas que les Romains, ça n'implique pas que les Grecs, ça implique les Carthaginois, les Phéniciens, les Égyptiens, les Étrusques, les Celtes, et que finalement, oui, on peut reprocher d'avoir, par les sources dites littéraires, par les textes, un Tacite par exemple qui nous parle de la Germanie, on peut reprocher un biais. Effectivement, la description que peuvent donner les Grecs et les Romains des peuples non grecs et non romains, bah, quand il les qualifie de barbares, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Enfin, ça veut dire qu'il... Voilà, étymologiquement, c'est qu'ils ne parlent pas le grec ou qu'ils ne parlent pas le latin. Et qui donc n'ont pas atteint le degré de civilisation des Grecs et des Romains. Ça, on est d'accord. Mais ça nous permet quand même de les connaître, finalement. Heureusement qu'on a un Tacite qui nous a parlé de la Germanie. Heureusement qu'on a un Strabon qui nous a parlé des Celtes. Mais c'est dans notre travail d'historien de questionner ces sources, justement, de travailler dessus. Et finalement, mais les romanistes en parleront peut-être mieux que moi, mais quand Tacite fait une description de la Germanie avec parfois, effectivement, des propos où on pourrait se dire il comprend pas trop ce qu'il voit et ça l'interpelle, il a quand même une certaine admiration pour ces populations, il a un certain respect, et justement s'il en parle, c'est qu'il considère que c'est une menace pour Rome et qu'il faut faire attention, que c'est un peuple à prendre au sérieux, et que justement c'est pas une bande de chevelus qu'il faut mépriser, oui, c'est le point de vue du vainqueur, mais voilà, je pense que la critique qui a un certain sens, effectivement, il faut se poser la question de la prise en compte des études historiques et des grandes thématiques d'études historiques, quelle que soit la période. Il ne faut pas que l'histoire ancienne y soit hermétique. Ça, je partage complètement l'avis qui est celui de Padilla, Maurice et consorts. Mais il me semble que pour défendre ce point de vue, ils font un mésusage justement de l'Antiquité, de ce que représente l'Antiquité, de ce que représente ce que l'Antiquité nous a légué. Parce que, ils sont issus des classiques et finalement, et je l'ai fait aussi jusqu'à présent. Il focalise sur les textes, mais les traces que nous ont laissées l'Antiquité sont bien plus larges que les textes. Il y a une prise en compte de toute la culture matérielle, les vestiges archéologiques, la monnaie, l'épigraphie, enfin les textes qui ne sont pas des textes dits littéraires, c'est-à-dire forcément orientés, qui doivent être pris en compte et qui peuvent nous donner une vision, non pas différente, mais nuancée, bien plus que ne pouvaient le donner les textes littéraires qui... Ben, pour certains, il fallait aussi plaire à son auditoire. Quelqu'un comme Tite Live, je prends un exemple d'un auteur romain, quelqu'un comme Tite Live, il fallait qu'il vende ses bouquins. Il fallait que ça plaise, et il fallait que ça plaise à son lectorat. Donc, mais une fois qu'on sait ça, ben, on prend de la hauteur, on prend du recul, et je pense que voilà, il y a cette contextualisation qui est importante et qui, à mon avis, n'est pas faite de manière suffisamment rigoureuse dans les critiques qui sont formulées par les collègues de Stanford. Et je crois que c'est un biais de leur analyse.
Oui, merci à Pierre-Olivier d'avoir rappelé effectivement peut-être deux éléments particuliers à la perspective, hein, plutôt d'ailleurs de Padilla que de Scheidel ou de Maurice, c'est-à-dire une perspective plutôt littéraire, en effet, même si Padilla utilise aussi beaucoup de documentation du quotidien pour son travail sur l'esclavage, pour son travail sur les questions d'appropriation des cultures autres par les Romains ou par les Grecs. Aussi cet deuxième élément de sa perspective qui est en effet une période relativement restreinte, hein, de l'histoire de Rome, où, un moment où, pour l'essentiel, l'histoire de Rome se résume quand même beaucoup à la... et très centrée sur l'Italie. Et peut-être qu'il a... C'est en partie une des raisons de ses critiques. Mais comme je crois Pierre-Olivier l'a bien montré, il semble peut-être important finalement de replacer cette question dans une perspective programmatique, c'est-à-dire ce que au fond Padilla comme Scheidel ou Maurice souhaitent, ce n'est pas véritablement que disparaisse ce à quoi. Et Padilla le reconnaît lui-même, hein, ce à quoi ils ont consacré jusque-là toute leur existence. Mais c'est plutôt une sorte de volonté, hein, justement, de dresser des programmes de recherche qui soient beaucoup plus attentifs à ces questions de matérialité de l'objet, tout ce qui permettrait de comprendre les sociétés antiques dans l'ensemble de leur diversité, ce qui permettrait aussi de saisir la place dans les sociétés antiques de groupes qui, jusqu'à présent, en effet, n'ont pas été au centre des études de l'Antiquité, ou peut-être pas de façon aussi, importante qu'il le souhaiterait. Comme il le dit lui-même dans plusieurs interviews qu'il a données à l'issue de ces affrontements un peu, ces joutes verbales et puis ces affrontements d'idées, il signale qu'en réalité, il voudrait armer en quelque sorte ses étudiants pour qu'ils saisissent mieux l'Antiquité, à la fois donc dans une perspective critique, mais aussi qu'à partir de l'Antiquité, ils soient mieux armés pour déconstruire dans leur quotidien les stéréotypes de genre, les stéréotypes, bien entendu, de les stéréotypes ethniques, et puis qu'ils remettent en question, en quelque sorte, les inégalités telles qu'elles sont produites par des sociétés patriarcales qui tirent très lointainement leur origine, peut-être du pater familial. Familias romain, mais il y a quand même une chaîne de transmission qui n'est pas tout à fait linéaire. Alors, comme souvent, le programme de l'émission était très riche, il voulait brasser très large. Je crois que dans les minutes qui nous restent, il sera difficile de pouvoir couvrir tout ce qui avait été promis, mais ce sera certainement l'occasion d'une nouvelle émission, d'une autre émission consacrée aux usages de l'Antiquité. C'est un champ en fait historique en lui-même qui pourrait appeler des heures et des heures d'écoute et de dialogue. Mais dans le temps qui nous reste encore, j'aimerais bien à la fois, pour sortir un peu de ce débat que j'espère nous avons essayé de bien remettre en perspective, essayer donc au moins de réfléchir à une perspective lointaine, pas forcément une perspective immédiate, parce que ce débat sur la question de la place des sociétés du passé, des langues du passé dans la formation de l'individu contemporain, c'est un débat qui revient sans cesse, et c'est aussi cette idée du décloisonnement de l'Antiquité sur hors de ces objets immédiats que sont le monde grec et le monde romain, c'est aussi un élément de réflexion récurrent dans notre milieu. On pourrait citer à la fin des années 80 la publication Le brûlot qu'avait constitué la publication de Black Athena par Bernal, qui essayait de rétablir la part des civilisations non méditerranéennes dans la naissance de la civilisation grecque, qui avait été reçue avec beaucoup d'intérêt dans, je dirais, le monde savant et le grand public, mais qui avait fait l'objet en revanche de critiques extrêmement fortes des spécialistes de l'Antiquité, poussant Bernal à ensuite réorienter ses recherches. Donc c'est pas un débat qui débarque en 2021, on pourrait là-dessus consacrer plusieurs émissions à ce sujet. Dans quand même le temps qui nous reste, j'aimerais au moins que l'on traite un point, c'est la question finalement des cultures et des identités européennes à partir du 18e et du 19e siècle et de la place que l'Antiquité a jouée. C'est-à-dire en fait, à la fois, je crois peut-être illustrer ce que Padilla aimerait bien que tous les classiques fassent, montrer en effet qu'il y a une dimension de mésusage de l'Antiquité, ou en tout cas d'usage orienté de l'Antiquité dans certaines réalités reconstruites, fantasmées, imagées. Mais montrer aussi peut-être qu'on peut avoir une approche plus respectueuse de ce que la référence à l'Antiquité a été réellement pour un certain nombre de civilisations européennes, occidentales, dans les trois derniers siècles de l'histoire contemporaine. En particulier, premier point qui me vient à l'esprit, c'est que si dans le système éducatif, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe occidentale, le poids des langues anciennes a été si important et le poids de l'histoire grecque et romaine a été à ce point prédominant, à tel point que si on se place, peut-être un peu plus dans le monde anglo-saxon que dans le monde français, mais on se place par exemple à Oxford entre 1910 et 1930, n'importe qui, n'importe lequel des Oxoniens qui voulait exercer une fonction d'autorité dans l'État britannique devait avoir fait ses classiques, soit à Oxford, soit à Cambridge. C'était vu comme une espèce de passage obligé. De fait, si cette antiquité a un poids si important dans l'histoire de l'éducation, en quelque sorte de la naissance d'une culture européenne moderne, c'est aussi par opposition à l'Église. C'est qu'au fond, si les classiques sont remis en quelque sorte au centre de l'éducation du citoyen, c'est pour fournir tout un ensemble à la fois de méthodes, d'idées, de réflexions logiques, un corpus de références qui est en coupure avec ce que jusqu'à présent on considérait comme la culture dominante, qui était la culture de l'Église catholique romaine, ou bon, dans des versions dissidentes. Mais donc il ne faut pas oublier quand même qu'il y a un effet libératoire quand même dans cette remise des langues anciennes au centre, et de l'histoire ancienne au centre de la formation de l'honnête homme au XVIIIe et au XIXe siècle. Et si on prend dans la naissance des nations, le rôle qu'a joué l'Antiquité, l'exemple évidemment le premier qui vient à l'esprit, c'est la France, et la référence au monde celte et aux Gaulois, et à la figure de Vercingétorix, à toute la geste de la guerre des Gaules vue côté gaulois, il faut comprendre aussi que cette figure du Gaulois, elle est mise en avant dès le début du XIXe siècle par les cercles démocratiques et libéraux qui opposent une sorte d'histoire de la nation égalitaire, émancipatrice, qui s'inscrirait dans le passé gaulois, pas en opposition à une histoire jusque-là officielle, qui est celle de l'histoire de la monarchie française, appuyée sur ses origines chrétiennes, ses origines franques, et pour lesquelles la figure de référence, c'est Clovis et son baptême. Donc là encore, la référence à l'Antiquité, même si par la suite, cette construction de la nation française autour de l'idée de l'héritage gaulois a justifié, alors non seulement la défense agressive contre l'Allemagne, a justifié les expéditions coloniales parce que on comparait au fond les Gaulois romanisés aux malheureux peuples colonisés qu'on allait faire passer de la barbarie à la civilisation, initialement, la référence au monde celte n'est pas une construction nationaliste fermée, c'est une volonté de faire appel à un imaginaire politique de la libération par opposition à des formes plus, je dirais, qui jusque-là avaient été dominantes et qui étaient en réalité pour ceux qui les défendaient, qui étaient une version de la France, au fond, tout aussi fermée sur elle-même que par la suite a pu être la référence plus nationaliste à la Gaule au milieu du XXe siècle. Pierre-Olivier, sur cette question de du rapport à l'Antiquité dans la construction et l'affirmation de la nation française, je crois que vous vouliez parler peut-être du rapport à l'art, en fait, l'expression en fait, du rapport à la Gaule dans l'art pompier ou l'art populaire plus tard.
Oui, tout à fait. Alors, on n'est pas là sur du mésusage, mais on est sur un usage qui est effectivement une certaine forme orientée. Enfin, il y a toutes les représentations qui commencent. Alors, si on remonte un tout petit peu avant le 19e siècle, mais très rapidement, déjà l'usage que pouvait en faire Louis XIV quand il fait décorer le château de Versailles et qu'il se représente en Alexandre le Grand, on voit bien qu'il y a tout cet héritage qui va être récupéré comme le grand roi, le roi éclairé, le roi qui domine et ainsi de suite. Mais même quand on reprend dans la construction, si on reprend toute l'utilisation dans l'art, il me semble que si on reste sur le cas français et si on reste sur celui des Celtes et des Gaulois plus particulièrement et de Vercingétorix, toutes les représentations qui ont pu être faites dans la peinture du 19e siècle, un peu pompiers et pompeuses, qu'on pouvait avoir de ce Vercingétorix noble à cheval qui se rend à César, qui est invaincu, triomphant, on voit bien aussi quelle était la façon, quand on sait la façon dont ça avait été fait au départ par les études menées sous le Second Empire à l'initiative de Napoléon III, qui voulait trouver un héros national, quelqu'un qui pouvait, puisque Napoléon III se référait à César, César ne pouvait être grand que s'il avait un adversaire à sa hauteur, d'où l'importance de Vercingétorix comme chef qui résiste à César et qui résiste fort. Et finalement, ce même personnage de Vercingétorix, récupéré par la Troisième République, qui a quand même fait ce qu'il fallait pour faire tomber le Second Empire, ne faites pas de moi un bonapartiste, mais il se trouve qu'ils ont récupéré ce personnage mis en exergue par le Second Empire, parce que la statue de Vercingétorix qu'on peut avoir, elle est quand même pas mal, vous le faites passer chez le coiffeur, vous lui coupez les cheveux et vous lui taillez la barbe, c'est Napoléon III. La récupération qui a été faite par la Troisième République, c'était de dire, après la défaite contre la Prusse, regardez, même dans la défaite, il est fier, il est noble, il est défait, mais il a la défaite glorieuse en quelque sorte. Il a perdu avec panache. Ça permettait de se raccrocher à cette idée-là. Et finalement, c'est vrai que c'est des choses qui ressortent. Et dans l'idée qu'on peut avoir, si on pousse très loin la métaphore du Gaulois. Quand on prend Astérix, le village qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, c'est qui est en fait pris pour être une allégorie de la France des Trente Glorieuses, on voit là aussi cette utilisation de l'Antiquité avec un référent qui parle à un imaginaire et qui nourrit finalement cette appropriation qu'on peut avoir de l'Antiquité au-delà de cercles purement de recherche et historique.
Oui, merci pour ces précisions. Il faut dire aussi, par exemple, que le même Napoléon III, s'est servi du passé antique pour justifier auprès des colons en Afrique du Nord, des colons français, une politique d'ouverture de la citoyenneté française, d'ouverture aussi des droits aux indigènes colonisés, qui fut relativement moderne et progressiste par rapport à la fin du XIXe siècle. Donc, c'était pour terminer sur cette note, pour montrer que il faut faire très attention finalement à la référence à l'Antiquité. L'Antiquité est, comme Pierre-Olivier l'avait très bien rappelé, un espace-temps extraordinairement large, et la plasticité de sa réception ne peut peut-être pas se résumer à simplement une façon, une forme du rapport à l'Antiquité comme responsable finalement de beaucoup des maux qui affectent nos sociétés actuelles. Et on ne peut malheureusement pas finalement penser qu'en se débarrassant des classiques, on améliorerait les sociétés dans lesquelles nous vivons. Alors, je termine cette émission donc sur l'idée, un mot que je trouve très intéressant de Mary Bird, qui effectivement signale que l'Antiquité n'a pas de couleur politique, mais que, bien entendu, on peut lui donner, nous, par le remploi, les références que nous y faisons, nous pouvons lui donner de multiples couleurs, mais elle, en tant que telle, elle est évidemment sans couleur. J'espère que par cette émission, nous vous avons bien montré les débats qui traversent nos disciplines à Pierre-Olivier Auchard, maître de conférence en histoire grecque à l'Université de Tours, et moi-même, donc Sylvain Jagnard, maître de conférence en histoire romaine au même département. Et vous avoir donné envie d'en savoir un peu plus sur ces questions. Et nous consacrerons, je l'espère, une autre émission à ces questions des usages de l'Antiquité. Merci à tous et au mois prochain pour une nouvelle émission d'Un tour d'histoire.
Merci, au revoir.